Bonjour, nous sommes le samedi 14 octobre, vous écoutez 48 FM et vous êtes sur L'Erreur est urbaine, l'émission mensuelle proposée par l'ASBL Urbagora pour parler de la ville, de Liège et du monde, les enjeux urbains, passés à la loupe au crible de nos chroniqueurs et de nos dossiers. Sans plus attendre, je vous propose le sommaire de cette émission qui, je l'espère, sera varié, sera assez plaisant et parlera à la fois de vélo, d'architecture, de patrimoine, d'urbanisme, etc. À ce sommaire de ce numéro, nous avons tout d'abord un grand dossier qui viendra en deuxième partie d'émission, qui va essayer de faire le tour des enjeux du patrimoine sidérurgique. On sait, avec la disparition l'an passé du Haut-Fourneau 6 à Ougrée, que ce patrimoine a été pour le moins délaissé en Wallonie, alors qu'ailleurs dans le monde, ce patrimoine-là a réussi à être valorisé de manière différente. Je recevrai à ce titre-là deux auteurs, Noémie Drouguet et Philippe Baudeux, qui publient un bouquin comme hors-série de dérivation qui s'appelle « Vive les Hauts-Fourneaux » et qui fait un peu un état des lieux de ce patrimoine, de manière de le protéger, des enjeux qui sont sous-tendus, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, affectifs peut-être aussi, identitaires, économiques, environnementaux, etc. Par ailleurs, avant ça, nous aurons plusieurs chroniques. D'abord, une chronique vélo que je vous avais promis le mois passé et qui, pour des raisons techniques, n'a pas pu être enregistrée à ce moment-là. Mais Mathieu est bien là, il est devant moi et il s'est tout à fait à même de faire cette chronique aujourd'hui. Le tour de la question sera ce mois-ci consacré à Bavière, un dossier épineux s'il en est, ce grand triangle vide, ce triangle des Bermudes liégeois. Pavel viendra nous en parler. Pavel toujours viendra avec sa chronique qui, cette fois, parlera de city branding, de marketing territorial et de Liège plus glamour que Venise. Nous aurons aussi une chronique architecture au sommaire de ce numéro avec Lisa De Fischer, professeure ici à l'ULG et par ailleurs rédactrice en chef ad intérim de la revue A+, qui viendra nous faire un petit topo sur les actualités architecturales à Liège, mais plus généralement en Belgique. Et donc on démarre sur les chapeaux de roue avec Mathieu. Salut Mathieu.
Salut Baptiste.
De quoi tu parles aujourd'hui ?
Je parle du vélo et surtout du vélo pendant la première partie du XXe siècle, celle des prolétaires. L'histoire commence vers 1820, quand Karl Drais invente sa bien nommée Draisienne. Cette dernière, ancêtre quasi incontesté de tous les deux roues, va donner vers la fin du XIXe siècle la machine qui nous intéresse, la bicyclette. Son vrai nom, la bicyclette de sécurité, sans doute en opposition au grand bi qui exigeait, lui, d'être armé de patience et d'une résistance élevée face aux coups et blessures. Cette bicyclette, donc, va d'abord conquérir les classes sociales hautes de l'époque, sa fabrication étant marginale, son prix d'achat était par conséquent élevé. Passons rapidement sur cette tranche de l'histoire pour arriver directement dans la période qui nous intéresse aujourd'hui, le prolétariat à vélo. Dès 1900, l'industrie produit déjà en masse. Une trentaine d'années plus tard, le prix d'une bicyclette est 10 fois moins élevé, alors que les salaires, eux, augmentent. Le tramway, qui à cette époque est très présent, se voit rentrer en concurrence directe avec le vélo. On arrive alors au même prix et aux mêmes zones desservies. On voit alors déferler des milliers de cyclistes chaque jour dans les grandes villes afin de se rendre au travail. Voici un petit témoignage de James Ruffier que j'ai pu tirer du livre de Frédéric Errand, « Le retour de la bicyclette ». En franchissant le pont de Beson, un jour de semaine, à 7h du matin, m'éloignant de Paris, c'est à peine si je pouvais passer dans le flot de cyclistes qui venaient à ma rencontre, se dirigeant vers la capitale ou sa proche banlieue. Tous ces gens se rendaient à leur travail. Des milliers d'ouvriers allaient aux usines. Des employés gagnaient leurs bureaux et magasins. Des jeunes filles, des femmes, dactylos et vendeuses, pédalaient vers leur besogne quotidienne. Et le plus amusant, au moins pour moi, c'est que cette foule de cyclistes entravait toute autre circulation. Les rares autos se frayaient passage difficilement et, modestes devant le nombre, ne klaxonnaient qu'à petits coups discrets. Le tramway lui-même, chargé pourtant de prolétaires, ne glissait qu'au ralenti et par légers bonds successifs sur les rails odieux. Au même moment, par toute la banlieue, le même spectacle pouvait être contemplé. Billancourt, Boulogne, Puteaux, Saint-Denis, Pantin, Vincennes et Malakoff sont traversés matin et soir par 400 ou 500 000 bicyclettes. Même chose dans les grandes villes de province, au Creusot, à Saint-Étienne, à Saint-Nazaire, dans toutes les cités industrielles, le tiers peut-être des ouvriers se rendent à bicyclette à leur travail. De même, beaucoup de paysans vont ainsi à leur champ. Le travailleur a trouvé dans la bicyclette le plus commode et le plus économique des engins de transport pour se rendre au lieu de sa besogne et en revenir. À cette époque, la bicyclette est donc un outil, Un moyen de déplacement qui séduit par son prix, sa durabilité, par les distances qu'on multiplie, par la liberté de mouvement qu'elle apporte. On trouve plus facilement un emploi, on peut aller d'un village à un autre. Car derrière son aspect profondément urbain, derrière son évidence urbaine, si j'ose dire, la bicyclette a aussi conquis les campagnes. Je n'ai pas réussi à trouver de sources ni de documents sur les changements qui ont pu avoir lieu. Alors je vais utiliser la mémoire de ma grand-mère qui m'a raconté cette histoire. Son père, mon arrière-grand-père, venait d'un petit village de paysans. C'était les années 30. Un jour, il a acquis une bicyclette. Je ne sais pas par quel moyen, sans doute achetée avec ses économies. Ma grand-mère me racontait qu'il a rapidement pu s'écarter du village et découvrir, je cite, « les meilleurs coins à champignons en automne et les meilleurs parterres de muguet au printemps ». L'histoire dit aussi qu'à une vingtaine de kilomètres de son village se trouvait un autre village, celui de mon arrière-grand-mère. Ces 20 kilomètres, même après s'être marié, il les a fait presque chaque jour, jusqu'à la fin de sa vie.
Et voilà, j'invite Mathieu à faire une chronique sur le vélo, il nous raconte l'histoire de ses grands-parents. Merci Mathieu. On enchaîne tout de suite avec la fameuse rubrique Le Tour de la Question, et on parle aujourd'hui du dossier sensible qu'est Bavière.
L'erreur est urbaine. Le tour de la question.
Le tour de la question, c'est la rubrique que l'on consacre à un enjeu liégeois, à quelque chose d'assez spécifique et sur lequel on essaie d'être exhaustif tout en étant le plus rapide possible pour documenter et passer une information à notre public, une information qui parfois est assez difficile à trouver dans la presse. Ce mois-ci, on va parler du triangle des Bermudes liégeois, de ce fameux triangle Bavière avec Pavel. Pavel, est-ce que tu peux nous situer un peu ce triangle ?
Alors oui, Bavière, c'est évidemment ce triangle qui se situe pas très loin de Saint-Luc, au bout du boulevard de la Constitution, entre le quai de la Dérivation et la rue des Bonnes-Villes. Beaucoup de gens le connaissent à Liège, le situe pas forcément, mais en tout cas, on identifie bien cette façade qui était l'entrée de l'ancien hôpital.
Bavière, du coup, c'est un hôpital. C'est un hôpital qui est construit à quel moment ?
Alors, Bavière, tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas à l'endroit où il est aujourd'hui, a été construit au 19e siècle, mais l'hôpital date d'avant ça, puisqu'il était situé en lieu et place de la place de l'Isère actuelle, plus un îlot d'habitation à proximité, qui donc a été construit, en tout cas l'hôpital a été ouvert en 1605, au XVIIe siècle.
Mais 19e siècle, c'est ça, il déménage, il se retrouve sur l'emplacement actuel, un emplacement qui fait plus ou moins 4 hectares. Pourquoi ?
Alors, il déménage au 19e siècle, tout simplement parce que l'hôpital était vétuste. Ça a provoqué beaucoup de débats. Ça a mis plusieurs dizaines d'années à se conclure, mais on a fini par l'établir là, notamment parce que c'était proche de l'université, puisque c'était un hôpital en partie universitaire, et en plus dans un quartier populaire, puisque l'hôpital avait vocation d'accueillir ce qu'on appelait à l'époque les indigents.
Donc on a l'hôpital placé sur le site actuel de Bavière. Aujourd'hui, l'hôpital n'est plus là. Il ne reste plus que la dentisterie, cette espèce de gros bâtiment moderne, et plus la façade avant qui est l'ancien bâtiment d'accueil. Comment on arrive entre le 19e siècle et 2017 à avoir tout déconstruit, tout détruit ? Pourquoi ? Comment ? Quand ? Est-ce que tu peux un peu situer ça ?
Alors d'abord, évidemment, l'hôpital, il est inauguré à la fin du 19e siècle. Et puis au fur et à mesure des décennies, il est agrandi, des bâtiments sont détruits, remplacés, la guerre passe par là évidemment. Et on finit par avoir des extensions, des nouveaux bâtiments. Et je pense que la dentisterie témoigne bien de ça, puisque c'est un bâtiment qui a été construit au début du 20e siècle et qui a encore été agrandi en hauteur par la suite. Alors, tu disais, je voulais le préciser, c'est qu'on a effectivement la dentisterie qui reste, on a le bâtiment avant, mais on a aussi la chapelle qui est une réplique de la chapelle du XVIIe siècle. Et donc, les décennies passent. Dans l'hôpital, peu à peu, devient vétuste malgré toutes ces transformations. Et le site est trop petit. Et on finit par décider d'abandonner cet hôpital et de créer le CHU et l'hôpital de la Citadelle. Donc, de séparer les entités qui étaient les hospices, qui étaient anciennement les hospices devenus le CPAS, et l'université. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir des années 80, on voit cet hôpital qui est un peu abandonné, à l'exception de la dentisterie qui fonctionnera dans les années 2000, et qui cherche à être réoccupé par de nouvelles affectations. Et on attend. Dans les années 90, on finit par avoir un promoteur qui rachète au CPS le terrain suite à un concours.
Oui, c'est ça, parce qu'au final, un espace de 4 hectares de terrain en plein centre-ville, c'est quand même une opportunité assez incroyable pour un promoteur. Et pour les décideurs publics, c'est soit une terre de possible, soit un trou à combler, en tout cas.
Oui, tout à fait. D'autant que c'est une très grande friche, la plus grande friche du centre de Liège, qui plus est, qui est à l'entrée de la ville vers Maastricht, et donc qui pourrait voir beaucoup de choses. C'est un peu un visage pour la ville et une grande opportunité pour faire beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça, le promoteur rachète, promoteur espagnol à l'époque, rachète le terrain et procède à des travaux dits d'assainissement. Donc on détruit le plus gros de l'hôpital. On finit par proposer différentes choses, des permis passent, des permis sont abandonnés aussi, ou en tout cas leur date de délivrance sont dépassées. Et on voit passer différents projets, des projets de complexes de cinéma, notamment qui ira à recours. La RTBF a proposé aussi de s'y installer, puis a finalement été à ce qui est aujourd'hui la Médiacité. On voit des projets de centres commerciaux, des projets de jeux d'eau. Donc beaucoup de choses qui se développent, qui sont proposées et qui ne voient jamais le jour.
Jusqu'à ce que finalement il y ait une première esquisse d'un projet qui soit apprécié à la fois par les riverains et à la fois qui obtient le feu vert des autorités publiques.
Oui, tout à fait. Suite à un appel à intérêt qui a très bien marché de la part de la ville, qui cherche un repreneur pour ce terrain et qui trouve dans la société IMOS un projet tout à fait intéressant mené par le bureau Anorak à l'époque. Et donc un projet qui était principalement du logement sous toutes ses formes et articulé par des espaces publics assez ambitieux, assez intéressants. Et qui marchait très bien en relation avec le quartier, avec ses différentes morphologies, je vais dire. Et donc tout ça est effectivement très apprécié, et apprécié aussi par les spécialistes de l'urbanisme, qui voient donc dans ce projet quelque chose de vraiment prometteur.
Un projet qui est du coup... basé sur du logement, mais pas exclusivement, qui inclut aussi des services un projet plurifonctionnel.
Non, celui-ci était principalement du logement. C'était vraiment à destination des habitants et de ramener des habitants dans la ville. Donc c'était quelque chose d'assez ambitieux. On voit alors des choses se développer dans le site. On voit des premiers terrassements qui se font en 2008. Et tout cela est vraiment devient vraiment intéressant, et les riverains ont espoir. Hélas, la crise économique de 2008 et 2009 passe par là, et le projet est finalement abandonné et ne verra jamais le jour. Alors à partir de là, évidemment, tout le monde est bien embêté, puisque on ne sait plus quoi faire. Le terrain apparaît presque comme maudit, finalement. Et on se pose beaucoup de questions. La ville finit par retrouver un nouveau repreneur et qui développe dans son coin un nouveau projet, projet qui a été présenté pour la première fois il y a maintenant plus d'un an. et qui et dont le permis, enfin une partie du permis a été déposée le mois dernier.
Alors c'est quoi ce projet du coup, le nouveau projet pour le coup? C'est multifonctionnel, c'est l'envie de mélanger des services. On parle principalement, évidemment, le plus marquant, c'est le déménagement de la bibliothèque des Chiroux, mais on parle aussi de centres sportifs, on parle aussi d'une gendarmerie, etc. Mélangé avec du logement. C'est, sur le papier, ça paraît pas mal.
Oui, tout à fait. Enfin, en termes de programme, c'est assez intéressant puisque ça tient bien debout, les choses se complètent bien. C'est un morceau de ville en soi qui pourrait apporter beaucoup de choses au quartier. La bibliothèque, notamment, qui n'est pas seulement une bibliothèque, mais qui est présentée comme un pôle culturel avec des choses en plus que simplement un centre de documentation. On voit effectivement une crèche, on voit le retour de la faculté de dentisterie. On voit toutes sortes de choses qui sont fort intéressantes, notamment aussi la reconstruction du centre sportif qui pour le moment est sur le boulevard de la Constitution et qui attire beaucoup de monde malgré son état. Et donc un programme donc assez intéressant, mais finalement qui est aussi, enfin le projet en lui-même est assez critiqué par toutes sortes de personnes, puisque on a plus l'impression d'un puzzle où on a mis toutes sortes de fonctions pour faire marcher pour faire marcher le projet, que d'un véritable projet urbanistique où tout est articulé avec le quartier. On voit des espaces publics qui sont pas forcément, enfin où on a du mal à imaginer ce qui pourrait s'y passer. On voit aussi des espaces publics qui sont empiétés par une grande quantité de parking qui sont réclamés par les différents programmes. Et donc on se pose vraiment la question de est-ce que tout cela apporte de la qualité et comment est-ce que tout ça peut participer au redéveloppement de Outremeuse.
Première enquête publique est en train de se terminer, est terminée. Ça ne concerne pas l'ensemble, hein, c'est juste une partie, c'est la partie qui concerne...
C'est-à-dire qu'en fait, trois permis ont été déposés en même temps. Un permis par la province qui concerne le pôle culturel, donc la construction du pôle culturel. Un permis déposé par la ville qui concerne le réaménagement de la fin du boulevard de la Constitution... Et le réaménagement de la rue des Bonnes-Villes. Et un troisième permis déposé, lui, par le promoteur, qui concerne uniquement les espaces qui vont devenir publics, donc, qui sont les espaces extérieurs du projet à l'intérieur du triangle.
Donc la première enquête publique se termine, on l'a dit, il y en aura d'autres, on ne sait pas encore les rendus, les résultats de cette enquête. Pour autant, il est encore possible, sans doute, d'améliorer le projet. Il y a des gens qui se battent pour. Comment on fait ?
Alors tout à fait, pour le moment la plateforme bavière.be essaye de rassembler les forces vives, associatives et riveraines qui cherchent à améliorer ce projet, à amener plus de qualité donc plateforme qui se base sur plusieurs axes. D'une part, il y a évidemment la conservation de la dentisterie et la réaffectation de la dentisterie qui est un cheval de guerre assez prédominant depuis maintenant quelques années. Mais qui n'est donc pas concerné par ces permis, puisque les bâtiments en eux-mêmes du master plan tel qu'il a été proposé l'année dernière n'ont pas, à part le pôle culturel, ne sont pas en question dans ces permis. On a évidemment l'axe des espaces publics, là qui pose question, évidemment, puisque on s'adresse au public, et notamment en Outremeuse, on manque beaucoup d'espaces publics verts. Et donc ce projet tel qu'il est n'apporte pas forcément réponse à ça. Qui plus est, on a aussi la question des investissements publics. On a, pour le pôle culturel en tout cas, on voit un investissement public qui est terriblement conséquent, mais on voit aussi une dépense qui est un peu... qui pose question, puisque on est dans une architecture qui est fort monumentale, qui n'apporte pas forcément toujours beaucoup d'utilité ou beaucoup de réponses pragmatiques au programme qui est proposé. Et donc finalement, on a pas, enfin, on a une dépense d'argent public qui est peut-être un peu, enfin, qu'on peut juger peut-être un peu déraisonnée et qui peut être un cheval de guerre pour poser question sur ce projet.
On l'aura compris, Bavière, ça se débloque enfin quelque part, on avance, même si on a connu des hauts et des bas sur ce dossier-là. Maintenant, l'enjeu premier, évidemment, c'est d'occuper cet espace, de l'occuper intelligemment. On retiendra des choses positives sur le projet qui est en cours, on retrouvera aussi des choses assez négatives. Vous retrouverez les documents, les visuels sur le site de la ville de Liège, on les partagera également sur la page Facebook de l'émission et sur la plateforme bavière.be. Je vous remercie, je te remercie Pavel pour cette rubrique. Sur ce, on fait une petite pause musicale, on écoute Pour me rendre à mon bureau, version Les petites bourrettes. Nouvelle chroniqueuse, une voix féminine, j'avais promis, chose promise, chose due. Une chronique architecturale. La ville, c'est aussi l'architecture. J'ai demandé à Lisa De Fischer, qui est professeure ici à l'université, mais également rédactrice en chef de la revue A+, de nous proposer une chronique sur les actualités architecturales et sur la politique architecturale. Ce mois-ci, elle a décidé de parler des agendas culturels à Liège, mais plus généralement en Belgique. On l'écoute.
Merci Baptiste pour cette introduction. En effet, je vais vous proposer une agenda culturelle avec des activités liées à l'architecture qui auront lieu à Liège, mais aussi en Belgique en général. Tout d'abord, je vous propose une conférence qui aura lieu dans 10 jours, le 24 octobre, au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Une conférence qui sera donnée par un architecte suisse qui s'appelle Christian Keretz, un architecte qui n'a pas encore construit en Belgique, mais qui a essayé de construire en Belgique parce qu'il a été sélectionné pour participer au concours pour le nouveau bâtiment de la radio et la télévision flamande, le site VRT à Bruxelles, juste à côté du site RTBF qui, eux aussi auront un nouveau bâtiment. C'est un architecte suisse qui est très emblématique, très critique aussi par rapport à ce qui se passe en Suisse au niveau de l'architecture et qui, pour cette raison, a récemment ouvert un bureau à Berlin parce qu'il trouve que à Berlin, justement, c'est là où ça se passe au niveau d'architecture. Il donnera une conférence donc le 24 octobre à 20h à Beaux-Arts et donc il expliquera tout son regard en fait sur l'architecture en général. Puis une deuxième conférence, une conférence à Liège qui aura lieu au Théâtre de Liège. C'est une conférence qu'organise la faculté d'architecture en collaboration avec la Société libre d'émulation. C'est un cycle de conférences d'ailleurs, un cycle qui s'appelle Architecture et culture. Et donc il y a 3 ou 4 conférences par an. Il y a déjà une première conférence qui a eu lieu début octobre et maintenant c'est la deuxième conférence du cycle. Une conférence donnée par le bureau d'architecture de Gand, Cousset et Goris. C'est un bureau qui travaille beaucoup avec la co-création. Ça veut dire qu'il collabore avec d'autres bureaux d'architecture. Ils ont réalisé 2 bâtiments en Belgique en collaboration avec le bureau de Barcelone RCR Architects. C'est un bureau qui a cette année gagné le prix Pritzker. Donc c'est à peu près le prix Nobel de l'architecture. Et donc, ils ont réalisé 2 bâtiments en collaboration avec eux. La nouvelle bibliothèque de Crook à Gand, qui vient d'ouvrir cette année, et un crématorium qui date d'il y a quelques années, qui s'appelle Hofhead, qui est donc près de Louvain. Il y a un autre bâtiment d'eux qui est vraiment magnifique, c'est le centre des visiteurs Oswin. Ils donneront une conférence le 6 novembre au Théâtre de Liège à 20h30. Et puis, spécialement pour vous, j'ai fait un petit voyage à Westminster. À Westminster, donc c'est un petit village près de la frontière avec les Pays-Bas. Et là, il y a une abbaye qui a été construite par un architecte qui s'appelle Dom Hans van der Laan. Et donc, c'est justement sur ce personnage qui a une exposition qui vient d'ouvrir au Vlaams Architecture Institute à Anvers. Et donc j'ai eu le plaisir de rencontrer la commissaire de cette exposition, Caroline Voet, qui m'a fait une petite visite guidée dans le bâtiment emblématique de Dom van der Laan et qui en profite de m'expliquer plus sur son architecture. Je vous amène à Westminster, une abbaye de l'architecte Dom van der Laan. Sur cet architecte a lieu maintenant une exposition à De Sengel, organisée par le VAI, le Vlaams Architecture Institute. Et j'ai le plaisir de rencontrer Caroline Voet, la commissaire de cette exposition, qui nous expliquera qui est Dom van der Laan et pourquoi ce projet à Westminster a une telle importance.
Dom van der Laan, c'était un moine bénédictin. Mais là, alors, enfin, il était aussi architecte. Il était les deux. Donc, il a construit quelques couvents dans la siècle passé. Et la couvent, ici, à Westminster, des Maria Susters van Franciscus, ça prend une place exceptionnelle. Elle était construite dans les années 70 et là, elle était en train de faire et de développer sa philosophie de l'espace, l'espace architectonique. C'était une philosophie très spécifique concernant les sujets ouverts, fermés, la masse, l'espace, vraiment des idées spatiales, mais assez abstraites. Donc, dans l'exposition, dans le single, organisé avec le VAI, nous on montre toutes ces petites idées abstraites, mais philosophiques, L'abbé ici, abbé Rosenberg, montre très bien comment il a fait son vraiment dans la réalité.
Merci beaucoup Caroline Voûte pour ces explications qui nous donneront certainement envie d'aller voir cette exposition. Une exposition qui aura lieu donc au Vlaams Architecture Institute dans le bâtiment du De Sengel à Anvers du 13 octobre 2017 jusqu'au 14 janvier 2018.
Pavel, aujourd'hui, tu vas parler de city branding, de marketing territorial, de tout ce phénomène incroyable qui fait qu'aujourd'hui, Liège est plus glamour que, plus romantique que Venise, plus glamour que Cannes, plus pluvieuse que Londres, et je ne sais n'inquiet encore, quoi. On t'écoute.
Tout à fait, Baptiste. Merci. Alors, l'aéroport de Biarritz accueille les touristes chinois. La Beauvrie est un centre international d'art en collaboration avec nul autre que le Louvre. La gare de Calatrava est publiée dans les livres d'architecture du monde entier, à grand renfort de papier glacé et de descriptions plus que flatteuses. En somme, Liège s'exporte. Liège se vend. Liège se veut international. C'est génial! On est fiers de notre ville, on veut que tout le monde la connaisse. À la rigueur, il était temps que le monde sache que Liège, c'est pas juste un bon isolant ou les bouchons de champagne. Pour chapeauter tout ça, on a même une organisation qui réunit la ville, la province et la région, autour du concept de métropole liégeoise. Son nom super engageant, Liège Together! Tous ensemble pour notre magnifique ville. Chouette ! L'initiative a en fait pris ses origines en 2013, en prévision de Liège 2017, pour s'en détacher quand la ville n'a pas été retenue. Depuis, la marque Liège Together se développe, et les moyens sont là. Par exemple, durant tout l'été, chacun a pu apercevoir cette campagne publicitaire qui se voulait participative. Mais si, ce sont ces slogans. Liège, la ville qui ne dort jamais. Liège plus romantique que Venise. Liège même plus glamour que Cannes. On peut apprécier l'humour chauvin. Ce n'est pas étranger à cette région. Après, on peut se poser les questions des limites de ce marketing territorial, comme il est dénommé. Le mois dernier, Liège Together affiche en effet fièrement sur sa page Facebook le slogan du jour, diffusé comme encart publicitaire dans le journal Le Soir. Quelle consécration ! Problème, le sujet de l'article. La colonisation juive et violente des quartiers musulmans à Jérusalem. Le contraste avec la nature humoristique de la publicité n'est pas forcément du meilleur goût. Alors bien sûr, il s'agit sans doute d'une erreur d'inattention. On pourra d'ailleurs se demander la pertinence de n'importe quelle pub sur un tel article, plutôt que sur la dernière défaite du Standard, par exemple. Mais cette erreur a le mérite de poser une question. Le city branding, ou marketing territorial, doit-il se faire à tout prix ? Le marketing territorial, c'est précisément ce processus de mise en valeur de la ville et de sa région à l'étranger. D'en faire une sorte de marque, avec une image facilement communicable et qui donne envie d'y aller et d'y consommer. Mais la ville et son image, elle se fait, et appartient d'abord à ses habitants, il me semble. En l'utilisant de façon aussi désinvolte pour attirer le touriste, on foule sans doute du pied ce qui fait précisément Liège pour beaucoup de ses habitants. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Liège est une ville faite de la cohabitation historique de différentes couches sociales, de différentes cultures, au sein d'un tas de quartiers différents. L'identité liégeoise est pleine de diversité. Alors, quant au nom de cette identité et de sa diffusion, on en oublie le respect des minorités persécutées, moi ça me chipote. Construire une gare monumentale pour attirer le chaland, en détruisant une bonne partie d'un quartier paupérisé, ça m'énerve. Liège Together, tous ensemble, ce pourrait être un appel à se rassembler, à discuter de cette identité commune, à débattre ensemble de ce qu'est et devrait devenir Liège. Portée par ses habitants, cette image pourrait sans doute toucher plus de personnes que n'importe quelle campagne publicitaire. Tout cela pourrait arriver. Et pourtant, pour l'instant, Liège Together, ce n'est qu'une grande campagne de pub, pas tellement différente de celle des autres grandes marques. À défaut, Baptiste et moi proposons un slogan de plus, puisque le débat est limité à ça. Alors, Liège, plus convivial que Hébron ou plus explosif que Gaza ?
Il est taquin, il est taquin, il est taquin. Merci, Pavel.
away from your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful, but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. She was walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled in the wind, subtle in a method of seduction. Sweaty little tragedies begin. And she would throw a feather boa in the road if she thought that it would set the scene. Unfittingly dipped into your companion, enlighten them to make you see. And there's affection to rent, the age of the understatement, before the attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. Affection to rent, the age of the understatement, before this attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart.
Le dossier du jour est consacré à un sujet particulièrement sensible, qui est sensible parce qu'il est complexe et qui est complexe parce qu'il touche à la fois à des enjeux urbanistiques, à des enjeux architecturaux, à des enjeux environnementaux, à des enjeux sociaux et surtout à ce qui fait le sel de la vie humaine, un mélange d'histoire ancienne et présente et récente, d'histoire récente qui est pourtant déjà résolue, cette histoire grande et petite qui touche à la fois les corps et les identités, les visions du monde et les paysages quotidiens. Mes invités, ce sont Noémie Drouguet et Philippe Baudeux qui publient un hors-série de dérivations consacré au patrimoine sidérurgique en Wallonie et notamment aux hauts fourneaux. Avant de les recevoir, j'aimerais faire une longue citation de Victor Hugo qui évoque déjà dans les 1800, je sais, j'ai plus la date exacte, mais je pense que c'est 1850, le paysage qui viennent. Je cite Victor Hugo. Cependant, le soir vient, le vent tombe, les prés, les buissons et les arbres se taisent, on n'entend plus que le bruit de l'eau. L'intérieur des maisons s'éclaire vaguement, les objets s'effacent comme dans une fumée, les voyageurs bâillent à qui mieux dans la voiture en disant « nous serons à Liège dans une heure ». C'est dans ce moment-là que le paysage prend tout à coup un aspect extraordinaire. Là-bas, dans les futaies, au pied des collines brunes et velues de l'Occident, de rondes prunelles de feu éclatent et resplendissent comme des yeux de tigre. Ici, au bord de la route, voici un effrayant chandelier de 80 pieds de haut qui flambe dans le paysage et qui jette sur les rochers, les forêts et les ravins des réverbérations sinistres. Plus loin, à l'entrée de cette vallée enfouie dans l'ombre, il y a une gueule pleine de braise qui s'ouvre et se ferme brusquement et d'où sort par instant avec d'affreux hoquets une langue de flamme. Ce sont les usines qui s'allument. Quand on a passé le lieu appelé la Petite Flémale, la chose devient inexprimable et vraiment magnifique. Toute la vallée semble trouée de cratères en éruption. Quelques-uns dégorgent derrière les taillis des tourbillons de vapeur écarlate étoilés d'étincelles. D'autres dessinent lugubrement sur un fond rouge la noire silhouette des villages. Ailleurs, les flammes apparaissent à travers les crevasses d'un groupe d'édifices. On croirait qu'une armée ennemie vient de traverser le pays et que 20 bourgs mis à sac vous offrent à la fois dans cette nuit ténébreuse tous les aspects et toutes les phases de l'incendie, ceux-là embrasés, ceux-ci fumant, les autres flamboyants. Ce spectacle de guerre est donné par la paix. Cette copie effroyable de la dévastation est faite par l'industrie. Vous avez tout simplement là, sous les yeux, les hauts fourneaux de Monsieur Coquerel. Alors, Noémie, Philippe, bonjour.
Bonjour.
La citation que je fais est extrêmement violente, évidemment, et ne rend pas forcément hommage aux hauts fourneaux dans le... dans ce qu'ils peuvent représenter dans le paysage contemporain, évidemment, mais il me semblait intéressant de citer ce passage parce que les hauts fourneaux font partie du paysage wallon, ont marqué autant les corps, les organisations, la vie humaine en règle générale depuis 200 ans maintenant, et vous publiez un bouquin sur le sujet. Est-ce que vous pouvez me dire juste deux mots, présenter le propos général du bouquin ?
Oui, bien sûr. On a voulu ouvrir un dossier qui reste un dossier sensible, celui de que faire de ces espèces de tas de ferrailles monumentaux que sont les hauts fourneaux. Alors ici à Liège, tout le monde a en tête le paysage d'Ougret, qu'on voit très bien en longeant la Meuse ou en descendant du Sartilement, cette énorme cathédrale d'acier, cette forêt d'acier qui aujourd'hui semble morte et en tout cas bien moins vivante qu'à l'époque de Victor Hugo, ça c'est certain. On a voulu ouvrir le dossier parce que il nous semble qu'on n'entend pas beaucoup parler du devenir de ce que certains considèrent comme du patrimoine sidérurgique, du patrimoine industriel et plus particulièrement lié à la fabrication de la fonte et de l'acier. Donc le point de départ de ce bouquin, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps de parler de ça alors que tôt ou tard ça risque d'être rasé.
Oui, et même tôt ou tard, pour le Haut-Fourneau 6, ça s'est fait déjà l'an passé de manière un peu brutale, je crois, non ?
Voilà. Il y a bientôt un an, puisque c'était à la mi-décembre, on a dynamité l'avant-dernier Haut-Fourneau de la région de Liège, le HF6 à Serein. On en a quand même pas mal parlé, en fait, à ce moment-là. Il y a eu un petit soubresaut, il y a eu des émissions, il y a eu un direct, il y a eu pas mal de personnes qui se sont déplacées, qu'elles aient eu un lien, finalement, direct avec la sidérurgie ou pas, pas mal de personnes qui se sont déplacées pour assister à... voilà... à l'effondrement de ce géant. Et donc, à ce moment-là, on en a un petit peu parlé. Mais finalement, voilà, il y a eu un petit soubresaut il y a près d'un an, et puis plus grand-chose, en tout cas du côté liégeois.
Et le but du bouquin, c'est certainement pas ni de prendre parti pour une conservation en l'état, ni pour une destruction, même si le titre, c'est quand même « Vive les hauts fourneaux ». Donc on part du principe qu'il y a quand même derrière une idée de dire il faut protéger ce patrimoine-là, ou en tout cas, il faut lui trouver un statut. Est-ce que vous pourriez, en quelques secondes, en quelques phrases, simplement conclure le bouquin ? J'aime bien commencer mes interviews par la fin.
Quand on prend le titre « Vive les hauts fourneaux », c'est vrai que c'est un peu un plaidoyer pour qu'il y ait encore de la vie ou que ça génère peut-être plutôt de la vie, ces sites sidérurgiques qui sont très vastes. Nous, on est parti du principe que la table rase, qui est quand même une tendance assez régulière à Liège, de mettre tout par terre et puis de repartir d'une page vierge ou d'une page blanche. Nous sommes partis donc du principe que cette table rase, elle n'était pas cette peine fatalité, qu'il y avait peut-être moyen de regarder ces sites comme ils sont aujourd'hui, de se dire, tiens, si on élague un peu cette forêt d'acier, il y a peut-être des éléments intéressants à sauvegarder. Soit pour leur valeur, comme on disait, patrimoniale, c'est-à-dire un souvenir, une mémoire collective, des témoignages monumentaux de deux siècles d'industrie, d'une histoire sociale, enfin de quelque chose qui a durablement marqué le paysage. Donc ça, c'est la dimension patrimoniale, mais il y a aussi la dimension une dimension qu'on va dire de réhabilitation, de reconversion, de recyclage, où là, on peut complètement partir sur autre chose. On identifie effectivement dans notre, on va dire, conclusion, même si ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est plutôt une série de propositions, soit les nôtres ou celles d'autres personnes, on identifie des pistes de reconversion, de recyclage de ces sites sidérurgiques, sans nécessairement, comme je disais, passer par la table rase, quoi.
Oui, ce qui me paraît être de toute façon une bonne idée. Je propose une petite coupure musicale. On écoute DJ Kos Verbal Astos, c'est un MC liégeois, et on revient à vous dans 5 minutes. Yeah, cracks in the ground, they hear him coming. Soldiers of misfortune, they started drumming. Bystanders screaming out, why act? Marching with the game on my back like Ryback. The game's getting hijacked by the rap samurai, gamified, contaminating these fly tracks. This acid spitting bastards hitting faster than you're getting plastered after listening to Axe words. Spin it backwards, cut it up. Any way you slice it, I'm nice, kid. Act will fuck it up. Y'all rappers are some buttercups. Never hit the streets, just trying to get your fucking Twitter numbers up. What to bumble clap, fuck boy, move. Where I come from will tell you that you suck, boy, move. Throw them off the stage, PM Dawn style. Nobody beats the act, sing it TJ Swan style. Microphone phenomenal, verbal assault. I don't give a fuck, my style is militant. Microphone phenomenal. Yo, all these corny motherfuckers, what hip hop supposed to sound like? If you got them, light them. You got peoples, invite them, and y'all can all bear witness to a true Mike Titan. Excite biking when I'm writing, so get off the Jimbrowski. I'm like Gronkowski when I'm spiking the return of the New England Patriot missile. And my new single is your new favorite to mix to. No issues, the shit's so official. When your next shit don't drop, your fans won't miss you. Listen, I got this, consider this your career's apocalypse. Endangered species, y'all change to he she's. I bring rap clarity, grown man shit, even though these days that's a rarity. Every verse I drop is charity. Far as I can see it, I'm giving y'all a break from the hilarity. These rappers are funny style, but y'all don't give a fuck about that, because Acromania's running wild. Microphone phenomenal, verbal assault. I don't give a fuck, my style is militant. Microphone phenomenal. Yo, as per the general Dimitri's wishes, I got weak rappers' brain cells on petri dishes. We about to conduct an unsanctioned experiment, the likes of which haven't been seen since the pyramids. Aight, DJ Kos, you the boss. But first, let me get this very simple point across. See, I don't know how y'all do it in Belgium, but back home, we don't just steal rappers' cerebellums. It's all trivial, we in a different nation, and outside the statute of imitations, no limitations, project elimination, protected by my foreign friends, no incrimination. I ransack beats like the juggernaut with the lava hot verse that you love a lot. Real shit from a true vet who done forgot about shit that I did that y'all ain't do yet. Microphone phenomenal, verbal assault. I don't give a fuck, my staff is militant. Microphone phenomenal. All these corny motherfuckers, what hip hop supposed to sound like?
L'erreur est trouvée. Le dossier.
On est de retour sur les ondes de 48FM, vous écoutez toujours L'Erreur est urbaine. Je suis en compagnie de Philippe Baudeux et de Noémie Drouguet qui viennent présenter leur bouquin « Vive Léo Fourneau ». Pour commencer, peut-être une question sur la genèse de ce bouquin. Comment vous vient à l'esprit de créer cet objet et quelles sont vos motivations à la base ?
La motivation à la base, elle est née en allant visiter il y a maintenant quelques années un parc urbain, un parc paysager à Duisburg, dans la vallée de la Ruhr. On est allé là parce qu'on était intéressé, parce qu'on nous en avait parlé. C'est en fait un énorme parc paysager dans lequel qui se situe sur un ancien site sidérurgique. Donc il faut savoir que dans la Ruhr, il y a toute une route de culture industrielle qui traverse de très très nombreux sites industriels de toutes sortes, donc aussi bien miniers, charbonniers, verriers que sidérurgiques notamment. Et là, on a vraiment été ébahis, vraiment touchés par ce qui avait été fait à Duisburg, cette réinterprétation d'un patrimoine qui n'est pas présenté sous une forme muséalisée, mais qui est vraiment un parc. Un parc où il y a énormément de personnes qui se promènent à pied, à vélo, en famille, des gens qui viennent faire du sport, il y a des plaines de jeux. Les bâtiments qui ont été conservés sont réutilisés, notamment le gazomètre qui est devenu un centre de plongée. Donc tout ça était vraiment très impressionnant. De Duisburg, on est allé visiter après un autre haut fourneau à Attingen, toujours dans la vallée de la Ruhr, et puis un peu plus tard, celui de Völklingen, dans la vallée de la Sarre. Et c'est finalement après ces premières découvertes qu'on s'est dit, tiens, il y a tant de choses qui se font intéressantes chez notre voisin allemand. Que va-t-il advenir de notre, entre guillemets, haut fourneau à Ougré?
Et les enjeux de patrimoine industriel en Europe, il existe une route des patrimoines industriels qui passe par la Belgique, mais qui est sur le site internet de cette initiative qui vient d'Allemagne, justement, de ces sites-là. On ne trouve la page qu'en anglais ou en allemand. Est-ce que pour l'instant, en Belgique, les hauts fourneaux ont une quelconque considération
En fait, on s'est rendu compte aussi que... on a eu une période où on était, entre guillemets, plus ouvert à la visite de ces usines, puisque quand elles fonctionnaient, il y avait en tout cas un produit touristique, on va appeler ça comme ça, qui s'appelait la Route du Feu, qui existe encore virtuellement. En tout cas, il y a encore un portail internet, mais on ne peut pas dire que ce soit fort dynamique. Et donc, il était possible d'aller visiter une usine, soit le laminoir à chaud de Chertal. Il était aussi possible, à un moment donné, de visiter le haut fourneau. Donc, en tant que public. Et alors, là, c'était naturellement une infrastructure en fonctionnement. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où on est encore, où ces sites sont encore moins ouverts, même s'ils sont fermés, que précédemment. Et donc, du coup... pour continuer ce que disait Noémie, donc on s'est dit, ah tiens, chez nous à Liège, qu'est-ce qu'on va faire de ce haut fourneau? Puis on s'est rendu compte, ah oui, mais bon, on est à Liège, mais il y a aussi d'autres hauts fourneaux en Wallonie. On s'est rendu compte qu'à Charleroi, il en restait un, enfin ça on le savait quand même, mais on s'est rendu compte surtout qu'il y avait un collectif qui était assez actif à Charleroi pour revendiquer son maintien, sa préservation. Puis on s'est souvenu, mais oui, mais il y avait eu aussi Clabecq. Moi personnellement j'étais jeune à l'époque, je me rappelle il y avait eu les manifs lors des fermetures, première phase de fermeture des forges de Clabecq. On est allé voir là-bas, on s'est rendu compte qu'il y avait encore un haut fourneau aussi à Clabecq, et pas grand chose, mais enfin il reste encore la structure. Et puis encore plus tard, Noémie, toi tu t'es rendu compte qu'il y en avait eu aussi un dans le sud du Luxembourg, et là il n'y avait plus rien du tout.
Voilà. Ce qui veut dire qu'on a commencé à travailler sur ce projet de façon, je dirais, assez modeste. On n'est pas du tout des spécialistes du patrimoine industriel ou de la sidérurgie. À la base, on comprend à peine comment on fabrique de la fonte à partir de cailloux. Et puis on se rend compte aussi qu'on ne connaît pas très bien notre histoire de ce point de vue-là au niveau wallon. Et donc effectivement, à un moment dans notre travail, bon quand même relativement tôt, mais on s'est rendu compte qu'il y a eu de la sidérurgie, et même beaucoup, dans le sud du Luxembourg. Voilà, c'est quelque chose qui nous avait échappé. Et ça nous a peut-être d'autant plus échappé qu'en ce qui concerne l'usine à fonte d'Attu, donc près d'Arlon, elle a fermé il y a 40 ans. Et donc ils ont d'ailleurs célébré, entre guillemets, ils ont rendu un hommage aux 40 ans de la fermeture cette année. Donc on est allé sur place pour rencontrer des anciens sidérurgistes qui ont créé un petit musée. Mais là-bas, tout a été rasé. Il ne reste rien de l'usine.
Et donc, vous allez visiter la Roure et vous tombez un peu par hasard, au final, sur ce patrimoine industriel. Vous revenez en Belgique en vous disant, on ferait bien un travail là-dessus. Et comment vous travaillez? C'est quoi la méthodologie, du coup, que vous êtes impliqué? Parce que le bouquin donne la voix à énormément de personnes différentes. Je ne sais pas combien vous avez interrogé de personnes.
On a interrogé, une bonne trentaine de personnes. En tout cas, dans notre livre, il y a une trentaine, je dirais, de personnes qui interviennent, soit sous forme d'interview, soit de citation, etc. Et tout ça, c'est le résultat au niveau de la méthodologie, le point de départ, c'était, tiens, qu'est-ce qu'on a fait ailleurs? Et par conséquent, qu'est-ce qu'on pourrait faire en Wallonie? Et donc là, on a commencé à rencontrer le collectif de Charleroi. On a commencé à rencontrer les personnes qui sont les premières, peut-être, je veux dire, au fourneau, c'est le cas de le dire, pour la défense de ce patrimoine, c'est l'association Patrimoine Industrie Wallonie-Bruxelles. Donc on a rencontré les responsables, on est allé sur le terrain faire des visites, de l'une, pas toujours de l'industrie sidérurgique, d'autres activités. De fil en aiguille, on a rencontré toutes les personnes, tout le petit cercle, on va dire, qui s'intéresse à la question. Et puis on a essayé d'élargir au maximum, et c'était chaque fois un peu des rencontres par hasard. Et puis on a essayé alors d'envisager tous les aspects qui sont, je veux dire, concernés par cette question de la préservation. Donc autant le patrimoine matériel que le patrimoine immatériel, les témoignages, les souvenirs, la mémoire, et alors aussi la question des sites, parce que là on est sur des sites très importants, on est sur des sites de plusieurs centaines d'hectares, et donc on est vraiment... à l'opposé du petit patrimoine d'un village où il y a une petite chapelle, un petit lavoir, une roue à aube, un moulin, etc., où c'est vite délimité. Là, c'est au contraire, c'est des sites qui sont, ils sont presque, je ne sais pas comment on disait l'autre jour, mais on ne sait même pas les envisager d'un seul regard, quoi. C'est tellement c'est vaste.
Oui, c'est ça. C'est plus, ça fait la taille du village où il y a la petite chapelle à préserver au final. Et donc vous êtes allé voir plusieurs personnes. Vous avez un bouquin qui du coup est pluriel à la fois dans les opinions aussi, dans les prises de position et dans les voix. Combien de temps ça vous a mis à écrire, aller chercher ces témoignages, et à quel moment, à partir du moment où vous rencontrez des gens, vous vous dites on va écrire quelque chose et on va écrire ce qu'on écrit, quoi.
On est allé frapper à la porte d'Urbagora en se disant ça va certainement les intéresser qu'on leur fasse un petit article, ou disons un article assez fourni pour la revue Dérivation. Et puis ce qui s'est passé, c'est que le comité d'accompagnement de cette revue a d'emblée dit mais ça va être intéressant, on va pas faire un article, on va faire un bouquin. C'était au mois de décembre, on a commencé à s'atteler vraiment à la tâche au mois de janvier. Et voilà, nous voilà au mois d'octobre, il nous a fallu 9 à 10 mois pour travailler là-dessus, rencontrer toutes les personnes qu'on vient de dire, et puis aussi faire pas mal de recherches pour alimenter notre propos. Je vous ai dit qu'on a commencé de façon assez modeste parce que nous ne sommes pas des spécialistes. Du coup, ça nous a demandé pas mal d'efforts pour rentrer dans toutes ces thématiques, dans toute cette complexité, puisqu'il ne s'agit pas, comme l'a dit Philippe, de se centrer sur le patrimoine matériel, sur les outils, sur les bâtiments, sur ce qui est toujours en place. Mais finalement, c'était aussi prendre en considération tout ce qui est immatériel, et puis toutes les contraintes terriblement fortes qui pèsent là-dessus, des contraintes d'ordre financier évidemment, mais aussi au niveau de l'environnement. Ce sont des sites qui sont extrêmement pollués, en particulier les coqueries par exemple sont des sites qui réclament un assainissement rapide et profond, et donc très coûteux aussi. Et donc, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de trouver ça beau ou utile pour la mémoire ou pour l'histoire. Il y a vraiment des enjeux qui échappent finalement à d'autres questions patrimoniales en général. Et donc là aussi, on a dû se documenter et rencontrer alors là, différentes personnes qui ont pu nous éclairer.
On fera peut-être un peu plus tard, on reviendra sur cette question des enjeux, parce que les enjeux sont extrêmement nombreux et on va essayer de les survoler, les évoquer dans leur grande majorité. Pavel, tu as une question ?
Oui, mais justement, moi je me demandais, vous l'avez dit, c'est un sujet qui est très complexe, qui est vraiment multiple. Et donc, comment on construit finalement cette... peut-être pas une expertise, mais en tout cas une connaissance au moins de ce sujet qui est très multiple. Qui est-ce qu'on va voir ?
Donc les premiers entretiens, les premières personnes qu'on a rencontrées, disons, ce sont des personnes qui travaillent dans le domaine du patrimoine et du patrimoine industriel. Nous avons rencontré Jean-Louis Delatte, qui est le directeur du Bois du Casier à Marcinelle, à Charleroi. Nous avons rencontré Jacques Krull, qui est le directeur de Bligny-Mines. Et nous avons rencontré Pascal Lefebvre et Anstelmes à la Maison de la métallurgie et de l'industrie de Liège. Donc ça, c'est le point de départ. Le point de départ, en tout cas, pour nous familiariser, si vous voulez, à ce type de patrimoine, et justement pour faire émerger tous les enjeux qui ne nous étaient pas apparus d'emblée. Et ce que je voudrais dire aussi, parce que c'est important à la fois dans notre méthodologie et dans le livre qui va être très, très bientôt donné à lire, c'est qu'on ne l'a pas écrit tout seul. On a demandé des contributions de différentes personnes qui, elles, ont des expertises beaucoup plus pointues sur certains sujets. Et ça nous a permis finalement d'être bien entourés pour travailler et pour proposer quelque chose, enfin voilà, une étude ou en tout cas documenter. Voilà, notre objectif c'était vraiment de documenter le débat. On s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément capable de le faire seul, ou plutôt on avait envie de le faire avec d'autres qui sont déjà impliqués dans ces questions-là parfois depuis très longtemps, et donc il y a toutes sortes de partenaires, de collaborateurs qui ont chacun écrit un texte ou qui sont intervenus à des titres divers dans cet ouvrage.
Oui, c'est intéressant aussi de rappeler que vous n'êtes ni l'un ni l'autre spécialiste du patrimoine a priori. Noémie, vous êtes universitaire, je ne sais plus dans quelle discipline.
Oui, je suis muséologue, donc je m'intéresse au musée et donc au patrimoine. Après, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de travailler sur la conservation et la mise en exposition de ce patrimoine-là, de tels outils et de cette histoire industrielle de la Wallonie. Par ailleurs, je suis aussi enseignante à l'École supérieure des arts Saint-Luc à Liège, où j'interviens aussi en tant que muséologue, notamment sur tout ce qui est conservation préventive des collections, muséographie, scénographie. Et donc, c'est avec ce regard particulier que j'ai abordé le sujet. Mais il est évident que conserver des énormes outils d'acier disséminés sur des sites de plusieurs hectares, là, j'ai découvert quelque chose.
Oui, c'est pas forcément le travail quotidien d'un muséologue. Et vous, Philippe, vous êtes journaliste.
Oui, moi, je suis journaliste. Et donc, j'avais comme une expérience de la sidérurgie via les infos plus chaudes d'actu sur les fermetures, sur les relances, sur de temps en temps aussi les investissements, etc. Donc j'avais un regard plus de journaliste, hein, sur ces outils. Et naturellement, j'avais aussi en tête ce constat quand des usines ferment, elles n'ont plus de valeur. C'est-à-dire qu'aux yeux des travailleurs, et quand je dis les travailleurs, c'est autant les ouvriers, les employés que les cadres, etc. L'usine ferme, elle n'a plus de valeur parce que ce n'est plus un outil de production. Et donc on passe en fait d'une histoire de l'usine ou du site industriel qui était fait chaque fois d'investissement, de fermeture, de reconstruction, hein, parce que prenons l'exemple du haut fourneau d'Ougré, les premiers ont été construits en 1836, il y a presque deux siècles. Chaque fois, on a détruit un haut fourneau pour remplacer par un haut fourneau plus performant. Et le dernier avatar aujourd'hui, c'est le haut fourneau B d'Ougré. Il est fermé, toute l'usine est fermée. Aux yeux des travailleurs, ça n'a plus de valeur. Et donc, c'était intéressant aussi de se dire, de dépasser ça en se disant, mais finalement, est-ce que ça a encore de la valeur au-delà de la fermeture? Et si ça a de la valeur, est-ce que c'est une valeur un peu handicapante, c'est-à-dire que c'est une espèce d'héritier là qu'on a et on ne sait pas quoi en faire parce que c'est tellement vaste, c'est tellement lourd, ça coûte tellement d'argent que c'est vraiment encombrant, ou est-ce que ça peut être une espèce de valeur à créer, quoi, à créer, c'est-à-dire à imaginer, et ça c'est un peu notre point de vue quand même aussi, d'imaginer des projets comme on a pu en voir ailleurs, quoi.
Ça me paraît être un très bon questionnement. On va se tenter d'y répondre après une petite pause musicale. J'ai cherché un peu dans ma culture musicale un morceau qui pourrait évoquer Léo Fourneau. Et, en tant que patrimoine, j'ai pas trouvé, mais par contre, j'ai pas résisté à l'idée de mettre un peu de Bernard Lavilliers pour évoquer le truc, quitte à être un peu kitsch et caricatural. We'll be right back.
tombe sur la vallée. Cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
On est de retour chez 48FM, vous écoutez l'erreur est urbaine. Je suis toujours en compagnie de Noémie Drouguet et Philippe Baudeux et on parle toujours de Haut Fourneau. Peut-être revenir sur les enjeux de conservation du patrimoine sidérurgique. C'est une gageure, préserver un Haut Fourneau, préserver du patrimoine en règle générale, ça, dans le sens où ça implique un certain nombre de coûts financiers, mais pas que, ça impacte sur énormément d'enjeux différents, de disciplines différentes. Peut-être faire un petit tour, notamment, je pense tout d'abord à la question environnementale. La question de la dépollution des sites, elle est assez cruciale, il me semble, dans ces enjeux de conservation du patrimoine.
Oui, alors là, j'aimerais bien le préciser d'emblée, on a, je veux dire, effleuré la question, c'est-à-dire que ce sont des questions très techniques. On s'est en fait rendu compte qu'il y avait plusieurs manières de dépolluer. on essaye de mettre ça, en tout cas, en évidence, c'est que entre une dépollution, je vais pas dire totale, mais où on excave les terres, où on les traite, on va les mettre ailleurs, on applique des processus de traitement chimique, de traitement thermique. Tout ça, ça coûte très cher. On rappelle combien ça a coûté de dépolluer la coquerie flémale. C'est 28 millions d'euros pour 7 hectares. C'est énorme. Et on s'est rendu compte qu'à côté de cette démarche-là, qui est vraiment bon, au niveau de la santé publique, ça, c'est vrai que c'est une démarche assez positive parce qu'on va très loin dans la dépollution. Mais à côté de ça, on a vu des sites où on avait fait une intervention minimale. C'est-à-dire que soit on fait juste un raclage, soit on prend ces terres, on les isole, on fait une petite montagne avec,
un
confinement. Mais alors là où on doit quand même montrer nos limites, c'est qu'on est, on n'est pas en capacité de faire un bilan de ça, de faire un comparatif chiffré en disant voilà, il y a tel scénario, scénario 1, 2, 3, 4, etc. Qu'est-ce qui est le mieux à faire pour Liège, etc. Pourquoi ? Parce que on peut toujours, et c'est ce que font les organismes spécialisés, ils font un bilan historique, donc ils peuvent dire, ah tiens, là, il y a eu telle activité pendant autant de temps, etc. Donc on peut se dire, ah oui, tiens, il y a telle pollution. Mais après, il faut de toute façon faire des sondages, il faut analyser les terres. Parfois, d'un site à l'autre, il y a des grosses différences. Et tout ça doit être challenger, comme on dit, pour employer un terme un peu la mode, avec les affectations futures. Est-ce qu'on va mettre du logement ? Est-ce qu'on va mettre une zone d'activité économique ? Est-ce qu'on va mettre un parc ?
J'imagine que les besoins en dépollution ne sont pas les mêmes si on décide de...
Donc tout ça, c'est très technique. Donc nous, on a voulu vraiment poser les enjeux de manière générale et quand même dire aussi qu'on a bien constaté qu'ailleurs, quand on va reprendre le site de Duisbourg, presque 200 hectares, hein, qui est ouvert au public, bah, bien sûr qu'à Duisbourg, ils n'ont pas tout dépollué de la même manière qu'ils l'ont fait à la coquerie flémale, où ça a coûté beaucoup de millions l'hectare. Quoi. Pourquoi ? Parce que c'est une zone qui est occupée la journée, les gens ne vivent pas en permanence là-bas, et donc on n'est pas dans les mêmes obligations. Et donc tout ça, nous, ce qu'on voulait montrer là-dedans, c'est que il y a peut-être moyen d'appréhender ces sites d'une manière un peu plus pragmatique, non pas pour nier les exigences environnementales, mais pour dire ne dressons pas l'épouvantail, ça va coûter très cher, ne faisons rien, quoi. Il y a peut-être moyen d'un peu mieux réfléchir là-dessus.
Moi, je me posais la question, parce que vous comparez des exemples aussi entre la Belgique et l'Allemagne. Est-ce qu'en termes de législation, il y a des spécificités belges qui font qu'en termes de pollution, c'est plus compliqué ?
Oui, il y a des spécificités. Et alors là, il faudrait presque avoir une étude rien que là-dessus, c'est-à-dire comparer sur l'aspect des pollutions, qu'est-ce qu'on a fait dans tel site, qu'est-ce qu'on a fait ailleurs, pour quelle destination future, combien ça a coûté, etc. Ça, c'est vraiment un travail technique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être peut-être initié, si ça n'a déjà peut-être été fait, mais en tout cas pas à notre connaissance, parce qu'on a quand même cherché et on a trouvé quand même beaucoup d'acteurs qui nous disaient « oui, c'est intéressant, mais je ne peux pas vous aider, je n'ai pas connaissance d'études là-dessus. » Et comme une autre démarche qui nous semble intéressante aussi, c'est quand on se trouve face à un site comme ça sidérurgique industriel, la tendance c'est de passer par une mise à terre des installations, et puis une dépollution, et puis une revente du terrain qui est vierge, on va dire. Et donc ce qu'on défend aussi, c'est une approche où on peut quand même prendre en considération les structures et leur potentiel d'attractivité éventuelle, comme on a dit, en sauvegardant certains éléments, en élaguant un petit peu, voilà.
Ça me donne envie de rebondir sur un autre enjeu que Pavel évoquait, c'est l'enjeu effectivement institutionnel et juridique. S'il y a sans doute des divergences
de loi entre l'Allemagne et la Belgique, même si je suppose que dans l'esprit, il y a sans doute des convergences à trouver. La question, en règle générale, préserver le patrimoine, enfin, même ou pas d'ailleurs, mais la question du statut de ce patrimoine-là, il dépend de qui aujourd'hui en Belgique, en Wallonie? Il dépend... C'est des terrains privés, donc c'est des...
Oui, c'est important de rappeler que ces terrains sont effectivement ont des propriétaires, qui sont des propriétaires industriels. À Ougré, les terrains appartiennent à ArcelorMittal. À Charleroi et à Clabecq, les terrains appartiennent à Duferco. En ce qui concerne Charleroi, par exemple, tous les 104 hectares qui appartiennent à Duferco, sur le site de Carcide, ont toujours actuellement une vocation industrielle. Et donc, une part intéressante, je pense, de notre démarche, ça a été aussi de s'intéresser à ce que veulent ou ce que ne veulent pas les propriétaires actuels des sites, comment eux, ils envisagent la reconversion des sites dont ils sont les propriétaires. Et en ce qui concerne Duferco, par exemple, à Clabecq, où il reste, comme on l'a dit, seulement une structure d'un haut fourneau et quelques éléments périphériques, un château d'eau et quelques autres choses, très très peu de choses. Là, tout le terrain, donc il y a 80 hectares qui appartenaient aux forges de Clabecq et qui sont maintenant... qui appartiennent à Duferco. Tous ces terrains sont actuellement reconvertis, notamment pour faire du logement, pour faire toujours des activités économiques, parcs de PME, etc., pour toutes sortes d'aménagements communautaires, pour faire du commerce, etc. Et c'est très intéressant parce qu'à Clabecq, on est à un quart d'heure, en train en tout cas, de Bruxelles. Et donc, pour un propriétaire tel que Duferco, c'est une opportunité qui s'est dessinée là-bas, c'est de procéder lui-même à la dépollution du sol à travers une filiale de Duferco spécialisée là-dedans, et de valoriser ces terrains pour y faire notamment du logement, qui est quand même une des fonctions qui rapporte le plus, finalement. Par rapport à ce qui se passe à Charleroi, il faut aussi se souvenir, en tant que liégeois, c'est pas mal de le rappeler, parce qu'on quitte rarement Liège pour Charleroi, ce qui est assez dommage. La situation à Charleroi est quand même très très particulière. Le fourneau du site de Carcide, il se trouve à 300 mètres de la gare de Charleroi. Il se trouve à 300-400 mètres du centre de Charleroi, de la ville basse de Charleroi. Donc la proximité entre ce site industriel et la ville est vraiment très frappante. Par ailleurs, ce site donc, qui s'appelle la Porte Ouest, qui est énorme, et donc Duferco n'est propriétaire que d'une partie de ces terrains, est aussi occupé encore actuellement par des activités industrielles sidérurgiques. Il y a Team Arsinel, il y a Industil, qui sont juste à côté de Carcide et qui là fonctionnent toujours. Il y a toujours de l'emploi, et donc c'est quand même intéressant aussi de rappeler que la sidérurgie n'est pas morte en Wallonie, pas du tout, ni à Liège ni à Charleroi. Et donc ces grands terrains, ce foncier a toujours une vocation industrielle et les propriétaires veulent la conserver. Et donc à Charleroi, il y a déjà eu différents projets sur la table pour reconvertir ces sites dans une vocation économique et industrielle. Il y a aussi évidemment la ville de Charleroi qui a quelque chose à dire, puisque c'est elle qui va permettre les permis, qui va octroyer, avec l'aval aussi de la région wallonne naturellement, mais qui va octroyer les permis. Et là, il y a quand même une sorte de bras de fer entre la ville de Charleroi et Duferco pour savoir qu'est-ce qui va devenir sur ces sites, parce que la ville de Charleroi n'a pas tellement envie qu'on continue à poursuivre de l'industrie lourde aux portes de la ville. Mmh. Donc ça fait partie aussi des éléments importants à relever. Et donc dans les projets qui sont actuellement sur la table à Charleroi, la ville a décidé de conserver le haut fourneau, qui est vraiment l'outil emblématique de la sidérurgie et des sidérurgistes, mais aussi quelques autres éléments qui tendent maintenant à être considérées comme du patrimoine, qui seraient en quelque sorte isolées sur ce grand site pour y donner un accès qui reste encore à définir, parce qu'on a décidé de conserver certains éléments sans qu'il y ait vraiment de projet encore qui soit élaboré à Charleroi. Donc, dans un sens, c'est très bien. Sur le plan patrimonial, quelque chose va être conservé. Bon, si on ne sait pas à quoi ça va aboutir, c'est un petit peu délicat de dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée actuellement. Enfin, c'est certainement une bonne de l'avoir conservé. Mais du point de vue du propriétaire, c'est problématique. Parce que ce haut fourneau et ces quelques périphériques qui seraient conservés, ben, ils vont être en plein milieu d'un site que lui, il envisage plutôt comme un site industriel. Et donc, comme nous l'a dit Olivier Waleff, qui est l'administrateur délégué de Duferco, lui, ce qu'il craint, c'est qu'on conserve effectivement quelques éléments, qu'on manque d'argent évidemment par la suite pour les valoriser pleinement, et que finalement il conserve lui au beau milieu de son site un cadavre sur pied. C'est ça, j'utilise ces termes. Et c'est vrai que si on veut donner de l'ampleur à un projet patrimonial, mais aussi un projet de rénovation urbaine, un projet d'ouverture et d'envergure à partir de ces restes très évocateurs de l'histoire sidérurgique de la Wallonie, il faut leur donner de l'ampleur. Et si on conserve seulement un petit périmètre enclavé dans toute autre chose, dans un terrain d'activité industrielle ou économique, bah, qui va aller visiter ça ? On peut imaginer une mise en lumière, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais il faut donner de l'ampleur au projet.
Et ça, ça nous a fort frappé quand on est allé sur place, parce qu'on a quand même fait beaucoup de reportages de terrain à Charleroi et à Ougré, etc. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'on est dans un territoire que moi j'appellerais un peu la Wallonie oubliée, c'est-à-dire que on est dans des territoires où se mélangent l'industrie et l'habitat, mais de l'habitat très très délabré, en tout cas en apparence, et que nous, au-delà de l'enjeu du patrimoine et de ce qu'on pourrait faire de ces outils, c'est aussi l'enjeu de reconstruire la ville dans ces endroits. Et donc, en fait, c'est là où il y a aussi de la valeur, c'est que on est entre la ville et l'industrie, avec ces terrains qui sont un peu à la lisière entre les deux, puisque on a des usines qui sont arrêtées. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de simplement on conserve le haut fourneau ou pas, mais c'est de quelle manière est-ce qu'on ne peut pas faire aussi des projets beaucoup plus vastes, de parcs urbains, de logements, de pôles avec des activités publiques ou communautaires, et de liens avec ce qui nous semble très important autant à Liège qu'à Charleroi qu'à Clabecq, c'est la voie d'eau. Donc on est sur trois sites où on a la Meuse, la Sambre ou le canal Charleroi-Bruxelles-Charleroi. Et donc le rapport aussi à la voie d'eau, et ça a été identifié dans les études, hein, le Ravel, etc. On est sur des attractivités tout à fait manifestes, quoi, là-dessus.
J'allais justement venir à cette question-là, qui est l'enjeu finalement, l'enjeu urbanistique. Clabecq, je connais moins, mais Liège, enfin, Ougré, comme Serein, comme Charleroi, sont dans des grands projets de redéploiement urbain aujourd'hui, où ils essaient de repenser l'un comme l'autre leurs espaces, dans une époque où les hauts fourneaux sont fermés, et ce qui a un impact évidemment extrêmement fort et extrêmement durable pour ces communes et ces villes-là. Comment on peut intégrer, et finalement vous venez d'y répondre, mais comment on peut intégrer la sauvegarde de ce patrimoine-là, ou en tout cas la réflexion sur ce patrimoine-là, dans la réflexion générale sur qu'est-ce qu'on fait du futur? Et je pense, vous avez parlé de la porte ouest de Charleroi, il y a forcément, c'est le master plan de Serein qui vient dans la foulée. Est-ce que le master plan sérésien aujourd'hui prend en compte ce patrimoine-là, ou est-ce qu'il évite la question, ou est-ce qu'il est flou,
À Serein, il y a un master plan qui est déjà, non seulement en élaboration, mais surtout en concrétisation, avec des boulevards urbains, avec des sauvegardes de halls industriels, Le dernier, enfin celui qui est peut-être le plus récent, c'est l'ancien hall des moteurs en face de CMI, dans lequel il y a eu le festival Usine cet été, avec des concerts, brocantes, etc. Donc c'était une réutilisation, on va dire, publique du patrimoine industriel, enfin un hall industriel. Donc on ne peut pas dire qu'à Serein, il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là. Ça, il faut le reconnaître, la démarche du master plan intègre à certains points du territoire des outils qui sont recyclés, réintégrés, etc. Mais c'est à petite échelle. Le master plan, par rapport à des outils monumentaux comme la coquerie ou le haut fourneau d'Ougré, évite la question. Sans doute parce que c'est trop complexe, c'est trop lourd, et que dans le master plan originel, c'est comme Noémie l'a dit, ça va rester au plan de secteur des zones industrielles. Donc l'optique, c'est de tout mettre par terre et de remettre en fait une activité économique. C'est ça qui est à l'œuvre pour le moment. Voilà. Mais nous, ce qu'on pose comme question, c'est est-ce que on doit forcément, même si on fait une zone d'activité économique, est-ce qu'on doit forcément tout mettre par terre sans garder un point d'accroche? Et ça, je trouve que c'est très intéressant à faire le lien avec la mémoire collective. C'est-à-dire que même si on sauvegarde de manière numérique, même si on a des archives, même si on a des institutions comme le Musée de la Vie Wallonne ou la Maison de la Métallurgie qui collectent des témoignages de travailleurs, qui, documente la question du travail, de l'épopée industrielle, etc., que tout ça est mis dans des expositions ou dans des centres d'archives ou dans des livres, même si tout ça est fait, si on n'a pas un point d'accroche dans le paysage qui, pour les générations futures et même celles présentes, dit « Ah, il y avait quelque chose là-bas, il s'est passé quelque chose », et que ce point d'accroche est en fait un point d'interrogation dans le paysage, de la même manière qu'à Liège, vous avez le monument interallié qui est une accroche par rapport à un mémorial. Si on n'a pas ce point d'accroche, ce point d'interrogation dans le paysage, on ne va pas aller voir des expos, on ne va pas aller lire des livres, etc.
Ou regarder des documentaires.
Et donc, dans quelle mesure il n'y a pas moyen à la fois de tourner la page et de faire une nouvelle activité économique, tout en gardant des traces et des témoins monumentaux?
Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que je me demande finalement... on sait que forcément une conservation et, ou en tout cas une réaffectation d'une façon ou d'une autre coûte forcément de l'argent, quoi qu'il arrive. C'est quand même des choses qui en général sont à moitié en ruine ou qui en tout cas demanderont des grands moyens pour être réaffectées et réutilisées. Est-ce que l'argent qui irait là-dedans, les grandes sommes, ne pourraient pas être utilisées finalement, en acceptant qu'on puisse en détruire ou au moins détruire une partie, on pourrait utiliser cet argent pour développer quelque chose qui célèbre aussi cette mémoire? Et finalement, vous parlez d'un point de repère dans le paysage, est-ce qu'une absence dans le paysage aussi, qui peut aussi être orchestrée de façon paysagère, elle ne peut pas aussi interroger ces questions-là?
Je ne sais pas, mais il y a une absence totale dans le paysage.
Qui n'est pas mise en scène, je veux dire.
C'est juste qu'il n'y a plus rien. Hein. Est-ce que, je ne sais pas si c'est spécialement... oui, c'est peut-être positif dans le sens où, à la place, on a mis une plateforme logistique qui crée de l'emploi. Donc ça, au moins, il y a ce côté-là positif. Maintenant, par rapport à la mémoire collective, par rapport à l'histoire des gens, de leur famille, de l'histoire régionale même, là, du côté d'Atu, je ne sais pas si c'est spécialement positif, quoi, de ne rien avoir sauvé.
En fait, les enjeux paysagers, les enjeux urbanistiques, etc., se posent dans la logique, effectivement, de qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine qui coûte de l'argent. Et l'aspect économique, je pense, est essentiel. Je vais peut-être juste en dire un mot rapidement. Mais ce qui est en jeu réellement, fondamentalement ici, il me semble, c'est la mémoire, c'est-à-dire l'identité, l'affectif, le lien affectif entre les hommes et leur terre. À un moment donné, on est dans une région qui a vécu pendant 200 ans pratiquement de cette activité-là, qui en vit encore en partie dans la sidérurgie. La sidérurgie n'est pas complètement morte, évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait de ces hauts fourneaux qui ont en plus de ça, une particularité d'être né ici. Donc, il y a en plus cet aspect-là qui est vraiment profondément identitaire, même si c'est un mot qui fait un peu peur, et c'est il me semble cet enjeu-là qui est essentiel.
C'est pas un mot qui doit faire peur, l'identité. L'identité, elle est multiple, et une part de l'identité, c'est l'industrie. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord avec nous, on pense que la majorité des Wallons sont de près ou de loin concernés par cette épopée industrielle. Et c'est une petite ou une grande part, ça dépend les individus, de leur identité et de l'identité collective aussi de la Wallonie. Je pense que vous l'aurez compris, l'argument financier, bien sûr qu'il est là, l'argument financier, on peut pas le nier. C'est qu'à dire, nous, dans notre démarche, on l'a mis un peu de côté, même si on cite des chiffres et on essaye aussi de documenter la question par rapport à ce qui a été fait ailleurs, suivant l'ampleur des démarches. Mais ce qu'on a voulu d'abord faire, c'était de donner de la matière pour se dire, tiens, si on estime que la mémoire collective, que ces deux siècles d'industrie qui ont façonné le paysage, qui ont donné du travail à des dizaines de milliers de personnes, si aujourd'hui ça doit être quelque part préservé, qu'est-ce que ça soulève comme question? Et c'est très, très, très complexe. Et finalement, l'argument financier là-dedans, il viendra à un moment donné où on espère, dans ce débat, il y aura des choix qui seront posés. Mais nous, dans notre optique, ce n'est pas l'argument financier qui doit dicter les choix. C'est un peu renverser un peu la logique.
Mais je veux aussi rebondir alors sur l'aspect émotionnel des choses, parce que je pense que dans les débats sur les hauts fourneaux, dans pas mal de cercles, on a aussi parfois tendance à peut-être romancer un peu les choses, ou en tout cas on a envie de montrer les choses sous un aspect positif, ce qui est tout à fait louable, parce que c'est vrai qu'on a on entend beaucoup de choses négatives parfois par rapport à ça. Mais enfin, moi en tout cas, j'entends aussi le discours des gens qui ont une histoire familiale douloureuse par rapport à ces endroits-là, des gens qui sont morts ou qui ont eu des maladies à cause de ça, qui ont vécu dans la poussière, dans les fumées, etc. Alors, quelle attitude on peut avoir par rapport à ça, finalement? Oui.
Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de familles qui ont une histoire plus ou moins directe avec la sidérurgie, et que parmi ces personnes qui ont un lien affectif, tous ne sont pas passionnés effectivement par les hauts fourneaux, et c'est clair que ça ne charrie pas que de bons souvenirs. Au contraire, il y a eu énormément de douleurs, que ce soit à cause du travail qui était très dur. Il était très dur au fourneau, il était très dur dans les coqueries, par exemple, où c'était probablement au niveau de l'industrie sidérurgique parmi les endroits où le travail était vraiment le plus dur. Donc ça a été compliqué. Ce qui a été aussi très compliqué, c'est que en ce qui concerne la région liégeoise, par exemple, les ouvriers de la sidérurgie, ils ont vécu 20 ans, 30 ans dans une insécurité structurelle que décrit très bien Cédric Lombach, que nous avons interrogé, qui est sociologue et qui a travaillé sur ces questions-là. Et donc, il y a énormément d'ouvriers, quand ça s'est terminé, ce n'était, au moment des fermetures, pour eux, c'était le dernier acte d'une histoire douloureuse qui a duré des années et des années. Et à ce moment-là, effectivement, Léo Fourneau et tout le reste, parce que Léo Fourneau, ce n'est qu'une petite partie, finalement, de ces sites énormes, il ne voulait plus en entendre parler. Ça a été aussi un échec cuisant pour les dirigeants. C'était un échec pour la région wallonne, qui a aussi injecté énormément d'argent là-dedans. Et donc, c'est clair que on ne peut pas avoir qu'un regard, nostalgique par rapport à ce que représentent ces vestiges de la sidérurgie, parce que ça a été aussi, ça a été très douloureux. Ça a été aussi douloureux, en tout cas ennuyeux, difficile à vivre pour des milliers de familles qui ont vécu dans la pollution, dans le bruit, qui ont absorbé, respiré, mangé des particules pendant des décennies. Et donc, pour tous les riverains, ça a été aussi un grand soulagement, la fermeture de la phase à chaud à Liège, la fermeture de la coquerie. Et donc, c'est clair que dans les années qui ont suivi la fermeture, c'est-à-dire maintenant, pour beaucoup, la table rase, c'est vraiment une bonne idée. Ouf, enfin débarrasser de ça.
À ce titre-là, il faudrait quand même aussi parler d'une étude qui a été faite par Christine Ruel, qui travaille ici à l'Université de Liège, au LEMA. C'est un laboratoire qui est dans le giron du département de géographie, et qui a justement fait des enquêtes auprès, en Wallonie, auprès de la population qui vit près des usines, soit des usines qui étaient en fonctionnement ou qui étaient fermées. Et alors il y a des très grandes ambiguïtés, des très grands contrastes, c'est-à-dire que des riverains qui sont à côté d'usines en fonctionnement, bien sûr qu'ils ne veulent plus en entendre parler de l'usine, mais par contre des riverains qui sont à côté d'une usine qui a fermé il y a 10 ans, quand on leur montre, c'est un peu la démarche de montrer des exemples de réaffectation qui avaient été faits ailleurs, eh ben, ils étaient plutôt enclins aussi à vouloir qu'il y ait, non pas une préservation totale de l'usine, mais qu'on garde des témoignages matériels de cette usine.
On va revenir sur ces enjeux humains et affectifs, parce que je crois que c'est exactement l'enjeu essentiel, en vrai, hein. C'est le rapport des individus qui est forcément ambigu à ces cathédrales qui sont à la fois des cathédrales de prospérité économique et en même temps de souffrance parfois individuelle, mais pas que. On va revenir longuement là-dessus après la pause musicale. Je propose d'écouter Mume, A Green Grass of Tunnel.
Trouben.
Vous êtes de retour sur 48FM, nous sommes de retour pour l'erreur est urbaine. On continue notre discussion sur le statut du patrimoine sidérurgique en compagnie de Noémie Droguet et de Philippe Baudeux. On parlait à l'instant des aspects humains, en fait, des enjeux humains qu'il y a derrière cette question de la préservation ou non du patrimoine. On a déjà pas mal parlé, peut-être... redire quelque chose, dire en gros, vous me dites si je me trompe, mais vous avez rencontré pas mal de monde qui parlait de ça, j'imagine des riverains, des gens qui ont travaillé, etc. Ces hauts fourneaux, ils doivent représenter, je suppose, pour une partie des gens, à la fois une fierté, une histoire familiale, il y a des couples qui se sont créés là-dedans ou autour de ces hauts fourneaux, il y a des familles qui ont consacré vraiment, il y a eu des vocations dans ces grands ensembles industriels, il y a toujours ça, et en même temps, ça évoque une certaine souffrance, des conditions de travail qui n'étaient pas faciles. Plus la fermeture, qui a été aussi les fermetures, qui ont aussi été traumatisantes et qui ont laissé chez certains énormément de colère, énormément de ressentiment, etc. Parmi les riverains et les anciens travailleurs que vous avez pu rencontrer, je suppose que vous avez vu des gens qui sont pour la table rase, non, c'est fini, n'en parlons plus, mais est-ce que la fierté ne remporte pas et l'identité ne remporte pas sur cette colère et cette envie de passer à autre chose?
Donc, vous venez de rappeler les mots importants. Il y a la souffrance, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Et l'autre mot-clé, j'ai envie de dire, de cette question liée au fourneau, c'est la fierté. Et c'est la fierté des anciens travailleurs, des anciens fondeurs, des anciens ingénieurs qui sont encore aujourd'hui passionnés par leur travail, par leur métier, et qui ont envie de transmettre cette fierté. Et c'est quelque chose qu'on a ressenti très fort, en tout cas à Charleroi, puisqu'on vous a dit, il y a un collectif citoyen pour la sauvegarde du HF4 de Carcide qui s'est constitué à la fin de 2013 et qui a finalement tellement bien travaillé, j'ai envie de dire, qu'ils ont obtenu, même s'il n'y a pas encore de projet, ils ont obtenu que une partie des infrastructures soit conservée au titre de patrimoine. On ressent vraiment en rencontrant ces personnes la fierté qu'elles ont envie de transmettre, et elles ont envie de rappeler une histoire qui est souvent méconnue, finalement, ou en tout cas méconnue d'une partie de la population wallonne. C'est cette épopée formidable de l'industrie, et notamment des dernières décennies, en tout cas des décennies qui ont précédé la fermeture, les fermetures. Voilà, il y a vraiment une passion qui a envie d'être partagée et qui conduit ces personnes à se battre pour la préservation d'une histoire qui est trop peu souvent racontée.
À se battre et aussi à se proposer comme éventuel guide. Si d'aventure, à Charleroi, ils parviennent à ce que le Haut Fourneau 4 soit non seulement préservé, mais aussi rendu visitable par le public, on a par exemple un monsieur qui s'appelle Aldo Séraphin, qui est un ancien fondeur, qui d'ailleurs dans son travail a eu une période assez douloureuse puisqu'il était brûlé à 50% lors de son travail, et il a continué malgré tout après à vouloir continuer à travailler au fourneau. Ben, ce monsieur qui aujourd'hui est pensionné, il veut être guide. De la même manière qu'on a eu des guides à Blénimine pour visiter la mine, lui veut raconter son travail. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Et donc, c'est encore parfois très ambigu d'à la fois avoir beaucoup souffert et en même temps de vouloir quand même
transmettre
et montrer en quoi son travail était pour lui quelque chose de formidable.
Oui, l'enjeu, c'est aussi quelque part de ne pas avoir souffert pour rien.
Oui, sans doute. Et de toute façon, tout ça, ça dépend très fort d'un individu à l'autre. Il n'y a pas de règle générale. Et donc, c'est ça aussi. Nous, on ne veut pas spécialement tirer de grandes leçons de tous ces petits mouvements, parce que bon, le collectif à Charleroi, c'est aussi, c'est pas non plus des milliers de personnes, hein, mais en même temps, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, voilà.
Et les riverains que vous avez pu rencontrer à Ougré, à Clabecq, à Charleroi, qui ne sont pas nécessairement liés, même si évidemment une majorité d'entre eux ont une histoire commune avec les Hauts-Fourneaux, quel est leur statut, eux, du point de vue plus concret, dans le sens plus, dans leur réalité paysagère quotidienne, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, quel discours on peut entendre?
Mais les riverains, moi j'en ai rencontré un petit peu, je veux dire, on n'a pas non plus fait de grandes analyses et de grands développements sur la question des riverains. Je dirais que de manière, enfin pas de manière générale, encore une fois, des quelques rencontres qu'on a pu avoir, on a à la fois des personnes qui ont un environnement qui n'est pas toujours très terrible parce qu'ils sont à proximité immédiate des usines. Et là aussi, c'est parfois très ambigu. À la fois, on veut une amélioration du cadre de vie et à la fois, on constate qu'il y a eu, par exemple, on a construit une plaine de jeux, on a construit un nouveau square, des petites choses, et ça a été vandalisé. Et donc, parfois aussi, il y a une espèce de ras-le-bol et de dire « Oh, on préfère encore qu'il n'y ait rien du tout ». Donc, tout ça, je pense, est évolutif, comme Christine Ruel l'a constaté dans son enquête. Tout ça est évolutif. Nous, en tout cas, c'est notre point de vue. L'entrée, ou en tout cas l'action peut-être qui peut rendre les choses beaucoup plus positives, c'est l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration des espaces publics, en fait. Voilà.
Et du coup, la transformation d'espaces privés, d'une manière ou d'une autre, en espaces publics.
Oui, et c'est pour ça qu'à Charleroi, par exemple, on est un peu critique quand même sur la démarche de la préservation, parce que on trouve que si on ne fait que préserver un outil, comme on disait, au milieu de l'industrie, toujours en fonctionnement,
enclavé,
on va dire, au milieu de l'industrie, que si ce n'est pas en lien avec le centre historique, enfin le centre de Charleroi qui est tout proche et la gare, ça risque d'être
manquer d'ambition, en fait. Ouais. Ça risque de manquer d'ambition. Et je pense que, en tout cas, en ce qui concerne Charleroi, probablement qu'il en faut beaucoup. Et je pense aussi que la ville en est bien consciente. Il y a eu différents projets. Il y a des très, très grands projets urbanistiques actuellement à Charleroi. Pour le moment, sur la ville basse. De plus en plus, maintenant, on va se concentrer sur la ville haute. Et donc, la porte ouest, c'est un projet qui va venir, mais dans les prochaines années, finalement. C'est dans les prochaines années que ça va être développé. Par contre, il y a quand même des éléments qui sont, qui apparaissent importants aux yeux de la ville, c'est de se réapproprier la Sambre, d'une part, parce que, comme le disait le bourgmestre de Charleroi, Georgios Mélis, les Carolos ont presque oublié que leur ville est traversée par une rivière. Seuls les industriels qui s'en servent s'en souviennent. Et donc là, ils ont décidé que cet accès à la voie d'eau, il faut la partager. Et effectivement, ça doit être dans le cadre d'une déambulation, de différents circuits, de mobilité douce, etc. Et alors le deuxième point qui est important aux yeux de Charleroi, c'est que dans cette énorme entité industrielle qui est actuellement à la porte ouest, donc vraiment à l'entrée de Charleroi, ce qui a été décidé, c'est de faire une coulée verte, c'est comme ça qu'on l'appelle, une coulée verte qui va relier le centre de Charleroi au centre de Marchienne-aux-Ponts, qui est situé quelques kilomètres plus loin. Et donc là, il y a vraiment la volonté dans les projets urbanistiques développés actuellement de reconnecter le centre de Charleroi avec avec le centre voisin, et de créer des circulations, de créer une nouvelle ambiance paysagère qui va finalement être à la fois un plus pour l'image de Charleroi, mais surtout un cadre de vie bien plus agréable pour les habitants. Et ça aussi, c'est important pour la fierté, pour l'identité. Alors, parfois, on parle un peu de marketing urbain aussi, avec les aspects positifs et les aspects négatifs. Mais voilà, en attendant, c'est ça qui est en projet. Et dans ce cadre, il faut donner plus d'ampleur, si on décide de le garder, au site du Haut-Fourneau.
J'ai une dernière question sur le fond, avant de conclure et de parler un peu de la forme. En l'état, les Hauts-Fourneaux, est-ce qu'on peut faire un rapide descriptif de ce qu'il en est ? C'est-à-dire qu'on a trois sites, Ougrée, Charleroi, Clabecq, qui ont une histoire un peu décalée, un calendrier, un agenda un peu décalé. On parle beaucoup dans la presse, on relaye régulièrement l'état de dégradation actuel des Hauts-Fourneaux à Ougrée, notamment avec beaucoup de vandalisme, beaucoup de vols, mais aussi des gens qui viennent visiter sauvagement. Enfin, il y a un tourisme un peu underground des Hauts-Fourneaux. Est-ce que vous pouvez faire un très rapide état des lieux sur chaque site de ce qui s'y passe ?
Donc à Charleroi, le site est très, très sécurisé, dans la mesure où il y a encore des bureaux qui sont occupés au sein même de l'enceinte du Haut-Fourneau. Et donc, globalement, il y a une société de sécurisation, de sécurité qui fait le tour, qui arrête éventuellement les éventuels voleurs de métaux, etc. Alors, à Ougrée, donc là, c'est complètement différent. Le site est mis sous cocon jusque fin 2018, début 2019. Donc, ça fait presque 5 ans qu'il est sous cocon, puisque les accords de fermeture, c'est 2014.
Concrètement, c'est quoi une mise sous cocon ?
Sous cocon, c'est-à-dire que l'outil est soi-disant préservé pour un éventuel redémarrage. On sait bien que ce redémarrage n'arrivera pas. Mais voilà, les accords sont les accords. Donc, le site est soi-disant préservé. Ce qui n'empêche pas, en fait, les voleurs de métaux d'être à l'œuvre. On a pu le constater. Ils sont là quasi en permanence. Et donc, ils mènent un chantier de dépeçage de, je dirais, tout ce qui est circuit électrique, tuyaux dans lesquels on va retrouver du cuivre, donc c'est en fait enlever les câbles, dégainer, extraire le cuivre, et bon, voilà, donc ça c'est un chantier qui se mène en permanence. La sécurisation du site, c'est-à-dire les quelques rangées de barbelés ou de clôtures, n'empêchent pas du tout ces voleurs d'être à l'œuvre. Ça a des conséquences sur l'outil. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pièces au niveau des tuyères, au niveau de la salle des commandes, etc. Il y a quand même pas mal de dégradation. Bon, c'est pas pour ça non plus qu'ils sont en train de faire tomber le Haut-Fourneau. Hein. Je veux dire, l'infrastructure majeure est toujours en état. Hein. Ça, on a pu le constater. Mais bon, voilà, il y a quand même un dépeçage qui est à l'œuvre.
Un petit mot de conclusion sur le sujet de la conservation du patrimoine sidérurgique. Vous êtes clairement dans une logique de plaidoyer, mais j'ai envie de dire de plaidoyer doux, qui ne fait plus esquisser des propositions en essayant de réfléchir et de soulever les différents enjeux plutôt que d'arriver avec une revendication extrêmement, extrêmement précise. Peut-être s'il y a une revendication, c'est la territorialisation de l'enjeu. C'est penser la préservation de ce patrimoine-là, la mise en valeur de ce patrimoine-là à un niveau régional.
À un niveau régional, oui, à l'échelle de la Wallonie. La guerre des bassins est finie, ou devrait être finie. Et effectivement, ce serait tout à fait idiot et inutile de répéter, et à Liège et à Charleroi, le même type de projet. À Charleroi, la préservation, elle est pratiquement acquise, ça va être un projet plutôt patrimonial. Si on veut faire quelque chose à Liège, garder un élément, quelques éléments au titre de totem, au titre d'espèce de sculpture monumentale qui pourrait être des signes dans le paysage et orchestrer finalement une mise en valeur de l'absence, il faut faire tout autre chose à Liège par rapport à Charleroi. Et là, on a effectivement esquissé des pistes qui pourraient notamment être liées au paysage. On a imaginé, par exemple, que si on garde la cuve du haut fourneau, on puisse l'utiliser pour monter, pour permettre aux visiteurs de monter tout au-dessus, jusqu'au niveau du gueulard, et avoir une vue incroyable sur la vallée de la Meuse. Alors, on peut imaginer que ce site et puis la vallée sont encore amenés, effectivement, à énormément évoluer, à changer de visage. Et on pourrait imaginer un outil à la fois informatif et ludique. Aujourd'hui, on pense à une tablette avec de la réalité augmentée. Plus tard, ça pourrait être d'autres formes d'outils qu'on ne connaît pas encore et qui seront à développer et qui permettraient aux visiteurs de se réapproprier à la fois le paysage, l'histoire, y accrocher des éléments architecturaux qui auraient pu être numérisé par exemple, et y accrocher aussi des témoignages des travailleurs, des éléments historiques qui permettraient d'avoir une sorte de centre d'interprétation du paysage industriel de la vallée de la Meuse. Voilà, c'est le genre de choses qu'on pourrait développer et qui n'auraient pas une vertu alors patrimonial ou muséal au sens de ce qui pourrait être construit actuellement à Charleroi, où on va davantage raconter la fabrication de la fonte, le fonctionnement d'un haut fourneau, les conditions de travail, etc. Donc imaginez des scénarios et des projets différents et complémentaires si on décide de faire quelque chose de ce côté-ci de la Wallonie.
Super. Le bouquin sort le 23, la semaine du 23 octobre, ce mois-ci. Vous pourrez l'acheter dans toutes les bonnes librairies, en tout cas, on le souhaite. A priori, oui. Vous pouvez déjà le précommander sur dérivation@pluriel.be. Il sort comme hors-série de dérivation. Et par ailleurs, il y a une soirée de lancement du bouquin.
Oui, donc on invite tous les Liégeois à se rendre au Rockrill, qui est une salle magnifique qui était installée dans les anciennes forges de la Providence à Charleroi. Donc c'est un site industriel. C'est le jeudi 26 octobre à partir de 19h. On organise d'ailleurs un trajet en car au départ de 17h30 à Liège. On aimerait bien que les Liégeois se déplacent, aillent à Charleroi. Pourquoi pas découvrir le Rockrill. Ils font une fois par mois, ils font ce qu'ils appellent les apéros industriels. Donc, on va avoir une partie un peu plus, je dirais, formelle de présentation du bouquin, etc. Et puis après, il y a des concerts en soirée, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y aura même un DJ John Cockerill qui sera de la partie, qui viendra de Liège pour faire un peu le raccord avec le
thème.
Le Rockrill. Voilà.
Super, merci beaucoup à vous deux. Toutes les infos seront mises sur la page Facebook de l'émission et aussi sur le site d'Urbagora, www.urbagora.be. Merci beaucoup à vous deux d'être venus présenter ce bouquin-là. On fait une petite pause musicale et on revient. On écoute La Yegros Chicharroja. L'émission touche à sa fin. Nous avons essayé d'être le plus large possible. Nous espérons qu'elle vous a plu, que nos différents chroniqueurs vous ont plu, que le dossier également. Nous reviendrons le mois prochain, ainsi que tous les mois jusqu'au mois de juin, tous les deuxièmes samedis du mois de 10h à midi. C'était L'Erreur est urbaine. La prochaine émission sera consacrée à des enjeux qui, s'ils peuvent paraître techniques, n'en sont pas moins essentiels pour l'avenir de nos villes, et particulièrement ici à Liège, où le besoin est particulièrement criant. On abordera les enjeux de supracommunalité, les enjeux de métropolisation. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et une excellente journée. Au revoir.